La vie mobile, l'émission des TPG sur Carac et Radio Lac.
La mobilité est patrimoine. Aujourd'hui, on en fait la démonstration, avec les acteurs des TPG qui sont là pour nous en parler, mais aussi l'association genevoise Musée des Tramways. Et à vos côtés, M. Gisler, nous avons Jean-Marc Comte. Vous êtes architecte, vous avez été le responsable des travaux de rénovation du bâtiment de l'horloge. Pour commencer, je veux bien que vous vous présentiez un petit peu pour nos amis auditrices et auditeurs.
Oui, volontiers. Oui, volontiers. Donc, j'ai déjà un long passé d'architecte. Depuis le Poly que j'ai fréquenté moyennement assidûment, mais quand même pour en arriver au diplôme. Et c'est vrai que j'ai toujours eu la chance dans mon bureau et avec mes associés de pouvoir travailler sur des travaux de réhabilitation de bâtiments anciens, de pouvoir confronter l'architecture contemporaine avec l'architecture ancienne. Et je pense que c'est vraiment des plus intéressants qu'on puisse trouver dans un bureau d'architecte, de pouvoir confronter et puis de pouvoir construire. On a eu la chance récemment encore de terminer le nouveau pavillon d'accueil du musée de Carouge, où il fallait aussi réhabiliter les structures anciennes. Et ça a été le cas pour le bâtiment de l'horloge et le bâtiment du courrier qui est juste derrière.
Merci pour cette petite présentation. Justement, ce bâtiment de l'horloge, quelle est son histoire, et en particulier peut-être avec les TPG, est-ce que vous avez des choses, j'en suis sûr, à rajouter?
Alors, Sébastien Weibel vous l'a dit, le bâtiment a été construit en 1900. Voilà, c'est assez simple parce que c'est écrit sur la porte. Donc, on sait parfaitement quand il a été bâti. Ce qui est intéressant, c'est effectivement de savoir que ce bâtiment a été construit par un architecte américain qui s'appelle Harvey Willey Corbett. Voilà, qui à l'époque, alors il avait quand même de la chance, ce qui n'a pas été mon cas, c'est qu'en fait il a pu construire ce bâtiment en n'ayant juste pas terminé ses études d'architecture à l'école des Beaux-Arts de Paris. Alors il avait quand même déjà un petit peu vadrouillé, puisqu'en fait aux États-Unis il avait quand même déjà un diplôme d'ingénieur civil en poche. Et puis comme ça, voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on est allé chercher ce brave monsieur Harvey Willey Corbett à Paris? Alors, il semble quand même que, à l'origine, la CGTE, qui était une entreprise privée, bâtissait tous ses projets, et c'était le cas un peu en Europe, sur une ingénierie et une intelligence en matière de transport électrique qui venait beaucoup d'outre-mer, et notamment des États-Unis. Et puis, il y avait aussi probablement des gens qui investissaient dans ces sociétés, qui étaient aussi des gens qui venaient des États-Unis, notamment. Et c'est probablement pour cette raison qu'on a été chercher cet architecte. Voilà, ce qu'on peut encore ajouter sur cet architecte. Alors, il a magnifiquement dessiné ce bâtiment Beaux-Arts, de l'horloge. Les dessins anciens nous montrent, par exemple, que un peu comme dans tous les projets, il faut parfois faire quelques économies. Et la tour de l'horloge, qui est à l'époque dessinée avec un étage de plus, a été, par exemple, un petit peu raccourcie d'un niveau. C'est intéressant parce que cet architecte, quand il est revenu aux États-Unis, il a eu une carrière extraordinaire. Et c'était un fan défenseur des gratte-ciels. Et il a pu construire aux États-Unis, alors pas mal de bâtiments extrêmement intéressants, certains aussi protégés maintenant. Et notamment des gratte-ciels, et notamment un gratte-ciel, enfin, en tout cas, une tour de l'horloge à Springfield, dans le Massachusetts, ou alors cette fois-ci, l'horloge, je crois qu'il fait presque 90 mètres de haut, là, en tout cas, rattraper toute la hauteur qu'il avait perdue sur le bâtiment de l'horloge à la jonction. Voilà. Et il a eu une carrière assez impressionnante dans ses gratte-ciels. Il y a aussi eu des gratte-ciels qui étaient prévus d'être le plus haut du monde, qui étaient prévus donc sur la presqu'île de Manhattan, à New York. Et malheureusement, ce gratte-ciel, dont les travaux ont commencé, je crois, dans les années 30, a malheureusement été victime du crash boursier. Et il en est resté à ses 29 niveaux. Et l'histoire est courte, mais ce qui est drôle, c'est qu'en fait, ce bâtiment abrite probablement les plus grandes surfaces aujourd'hui occupé par le Crédit Suisse, figurez-vous, dans cette presqu'île de New York. Voilà.
Le serpent s'est mordu la queue, le chat s'est mordu la queue.
Un peu.
Finalement. Merci beaucoup pour ces précisions. Je suis sûr que nos auditrices et auditeurs ont envie, d'autant plus maintenant, d'aller découvrir le bâtiment rénové, d'en savoir davantage, de le ressentir avec leur propre sens. Très rapidement, pour leur donner un petit avant-goût, quels sont les travaux de rénovation qui ont été faits? Très, très rapidement pour...
Alors, je pense que pour le bâtiment de l'horloge, vraiment, les travaux ont été très scrupuleusement une réhabilitation de l'existant, de l'ancien. Et ce qui est intéressant dans ce bâtiment, d'ailleurs, c'est que, comme souvent dans les bâtiments publics utilisés, on vient par ajout rajouter des sols, rajouter des parties de murs, rajouter des plafonds, etc. Et souvent, l'ancien reste simplement caché. Et c'était notamment le cas, et passablement le cas, au bâtiment de l'horloge, où on a pu retrouver passablement de sols anciens, que ce soit des terrazzos, que ce soit des planchers, des parquets, que ce soit des structures de plafond. Et je pense que tout ce travail de réhabilitation a pu être conduit de la meilleure manière, avec aussi, il faut le dire, quelques subventions du canton, puisque le bâtiment est inscrit à l'inventaire. On a pu aussi faire, je pense, un travail intéressant en façade, où tous les éléments de menuiserie anciennes, les anciennes fenêtres, ont été parfaitement réhabilités, adaptés pour répondre aux nouvelles contraintes thermiques. Voilà, en gros, les bâtiments qu'on a pu conduire dans ce bâtiment de l'horloge.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je suis certain que vous allez tous vouloir, toutes et tous, vouloir vous y précipiter pour les journées du patrimoine, notez-le, 9 et 10 septembre. Radio-là.